Je vous invite ce matin à nous déporter d'une certaine façon par le récit biblique à une période trouble de l'histoire d'Israël. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ. Une nouvelle puissance babylonienne étend sa domination sur tout le Proche-Orient, vient de défaire la puissance assyrienne et la menace se rapproche et semble se rapprocher maintenant de la région du peuple de Dieu. C'est l'époque où vivent des prophètes comme Jérémie, mais également des prophètes comme Habakkouk, qui sent dans ce temps trouble, dans ce temps de crise internationale, pour parler des menaces externes, qui est aussi un temps de crise interne au sein de leur nation, crise spirituelle profonde, il sent arriver la menace. Et c'est dans ce contexte qu'une voix prophétique, une de plus, celle de Habakkouk, va s'élever. Alors, nous ne savons quasiment rien concernant la personne du prophète Habakkouk, nous n'avons pas sa généalogie. Son nom même, Habakkouk, a divisé les commentateurs. Certains le rapprochent d'un terme assyrien qui signifierait « légume ». Alors moi, je ne sais pas si vous assumeriez de vous appeler « légume ». Et ce n'est jamais d'ailleurs ni galant, ni preuve d'amitié quand on dit que quelqu'un est un légume. Mais d'autres commentateurs pensent plutôt qu'on pourrait rapprocher le nom d'Habakkouk d'une racine hébraïque qui signifierait étreindre, embrasser, faisant remarquer que le ministère d'Habakkouk, lorsqu'on rentre dans son livre, nous est présenté un peu comme celui d'un lutteur qui est aux prises avec quelqu'un d'autre. Il lutte avec une question douloureuse, une question théologique. Les théologiens ont parlé de la théodicée, c'est-à-dire la question de la justice de Dieu. Comment un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu souverain, tout-puissant, permet-il le mal au sein, pas seulement du monde, mais aussi au sein de la nation qu'il s'est choisie? Comment? Effet particulier du livre du prophète Habakkouk, c'est que sa prophétie n'est d'abord pas dirigée, n'est d'abord pas une parole adressée au peuple, mais une prière, et même une protestation, une plainte, un réquisitoire même. Au nom de Dieu et contre Dieu. Il refuse que tout horizon soit bouché. Il refuse de se résigner à la désespérance. Et au nom de Dieu, qu'il connaît comme un Dieu fidèle, nous en parlerons, il proteste face au mal et il adresse sa plainte à Dieu. Habakkouk nous invite à réfléchir en notre temps aussi, à nouveau frais, à une question que j'ai formulée ainsi. Lorsque la norme est écartée, et l'écart normalisé, Quelle attitude doit être celle du juste, celle du fidèle? Lorsque tout ce qui fait norme est écarté. Il y a un passage de la Bible qui dit que quand les fondements sont ébranlés, que ferait le juste? C'est ça la question. Quand la norme est écartée et que les écarts sont normalisés, deviennent normes, que ferait le juste? Habakkuk va nous aider à réfléchir à cette question et nous verrons que, en entrant dans son livre, nous allons suivre son cheminement du pourquoi, du jusqu'à quand, au pourtant, au et pourtant. Puisque j'aurai encore le privilège de prêcher dimanche prochain, autant vous dire que cette prédication donc représente la première partie du parcours d'Habakkuk, le jusque-à quand. Et dimanche prochain, nous réfléchirons au « et pourtant ». Nous allons lire, et je commenterai au fil de notre lecture, quelques versets choisis du livre du prophète Habakkuk, en commençant par sa première plainte, puisqu'il y a deux plaintes dans les deux premiers chapitres du livre du prophète Habakkuk qui couvrent trois chapitres. Et ces deux plaintes sont entrelacées avec deux réponses de Dieu. Donc j'ai choisi de suivre la structure du récit. Nous lisons, et je lis dans la Nouvelle Bible Second, la parole du Seigneur, Habakkuk chapitre 1, versets 1 à 4 d'abord. Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi, violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Ravages et violences sont devant moi. Il y a des querelles et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et l'équité ne s'impose jamais. Parce que le méchant assaille le juste, et c'est pour cela que l'équité est pervertie avant de pouvoir s'imposer. La première plainte que le prophète Habakkuk exprime résonne tel un réquisitoire, à la fois contre la situation qu'il observe au sein de son peuple, Juda, et contre le Seigneur, devant lequel il vient déposer sa plainte. Cette plainte d'Habakkuk, nous l'entendons comme une dénonciation du mal sous ses diverses manifestations sociales, politiques, religieuses, économiques, etc. Le prophète Habakkuk est profondément accablé, attristé, inquiété par l'iniquité qui sévit au sein même de sa nation. Comment la nation de Dieu, appelée à être témoin de la loi de Dieu, témoin de ses œuvres bonnes, est devenue à ce point une nation où sévit violence, oppression, querelle, violation de la loi, justice sociale. Voilà ce qui trouble Habakkuk. Comment sommes-nous arrivés là? Que s'est-il passé? La loi n'a plus de vie, elle n'a plus de force. La justice, elle aussi semble ne plus avoir de force. La loi du plus malin, du plus rusé, semble s'imposer au plus naïf. La loi du plus fort semble s'imposer au plus faible. Et cette situation semble durer depuis quelque temps déjà. Puisque le prophète va avoir cette locution jusque à quand? qui nous suggère que la situation décriée par le prophète n'a que trop duré. Et au moment où il adresse sa plainte, elle continue de durer. Jusque à quand ? Une question qui ne manque pas de surgir dans l'Écriture, et pas seulement de la bouche des prophètes. Jusque à quand, c'est la question qui monte dans notre cœur quand l'épreuve nous atteint durablement. Quand le temps de l'épreuve devient lui-même une épreuve. Quand le temps de l'épreuve s'allonge et nous étire jusqu'aux extrémités de ce que nous pouvons supporter. Et d'une certaine manière, Habacuc se fait ici le porte-voix de toutes celles et ceux qui, en leur cœur, poussent ce cri dans l'épreuve. Jusque à quand ? Jusque à quand ? C'est aussi le cri qu'on retrouve dans plusieurs psaumes. Je suis tout épouvanté, dit le psalmiste. Et toi, Seigneur, jusque à quand ? Psaume 13, versets 2 à 3. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand te détourneras-tu de moi ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et chaque jour le chagrin au cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi ? Psaume 94, verset 3. Jusqu'à quand les méchants, Seigneur ? Jusqu'à quand les méchants exulteront-ils ? Lequel d'entre nous, bien-aimés, n'a jamais senti dans son cœur monter un tel cri quand l'épreuve, dans son absurdité, nous désarme, dans sa durée, nous fatigue. Jusque à quand, Seigneur, cette maladie ? Jusque à quand, Seigneur, cette précarité sociale ? Jusque à quand, Seigneur, cette injustice ? Jusque à quand, Seigneur, devrais-je attendre ? Jusque à quand ? Le prophète Habacuc proteste face au mal, et cela n'est pas rien. Ce jusque à quand montre qu'il refuse le silence de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est un Dieu vivant qui parle. Il refuse de se résigner. Il refuse de capituler devant toutes les raisons qu'il pourrait brandir pour désespérer. Jusque à quand ? Et s'il peut crier jusque à quand, c'est parce que sa foi, pour authentique qu'elle est, ne l'empêche pas de poser un regard lucide sur les réalités du monde dans lequel il est inséré. Habacuc considère d'ailleurs que s'il souffre, c'est précisément parce que Dieu lui a donné un discernement, une acuité sur les circonstances qu'il est en train de vivre, que son peuple est en train de vivre. Non, la foi n'est pas mettre sa tête dans un bac à sable pour ne pas voir. Non, la foi n'est pas le renoncement à un regard critique des situations de nos vies, des situations de nos nations. C'est parce que Habacuc a reçu du Seigneur un regard critique qu'il souffre. Tu me fais voir, lui dit-il. Tu me fais voir l'état spirituel de mon peuple. Tu me fais voir violence au sein de mon peuple. Tu me fais voir dispute, querelle. Tu me fais voir violation de la loi. Tu me fais voir. C'est toi, Seigneur, qui me donnes ce regard d'acuité. C'est un appel pour nous aussi. Alors que nous sentons combien résonne le message d'Habacuc et la situation nationale, internationale, dans le contexte dans lequel nous sommes. Ne croyons pas que la foi nous fera regarder ailleurs ou uniquement qu'à nous-mêmes lorsque violence, violation des normes internationales, loi du plus fort, contre les faibles. Terrorisme sont des mots qui nous touchent et qui menacent. Antisémitisme, racisme. Ne pensons pas que nous pourrions être église à nous occuper que de nos propres affaires, à regarder qu'à nos propres vies, sans jamais regarder de manière lucide et avec acuité, comme Habacuc, les blessures du monde. Et celles et ceux qui regardent les blessures du monde pour ce qu'elles sont, comprendront la souffrance d'Habacuc. Parce que seul celui qui connaît la volonté de Dieu, seul celui qui connaît le cœur de Dieu, seul celui qui connaît la pensée du Père, qui est le mal, qui a voulu arrêter l'engrenage de la violence et des vengeances, toujours, eh bien, seul lui est capable de sentir à ce point le désarroi face à des situations qui nous dépassent. Et c'est là que l'Église du Christ et que chacun de nous est appelé à exercer le même regard critique et prophétique d'Habacuc. Non pas en tombant dans toutes sortes de forums de débats. Je sais combien, hélas, ces questions divisent souvent, y compris à l'intérieur même de nos églises. Mais Habacuc n'est pas allé faire un débat politique avec quiconque. Il est entré dans la présence du Seigneur. Est-ce que j'entre dans la présence du Seigneur pour crier mon désarroi face à ce monde? Est-ce que la situation en Israël, en Palestine, me met à genoux devant le Seigneur? Est-ce que la situation en Ukraine, en Russie, me met à genoux devant le Seigneur? Est-ce que la situation outre-Atlantique, en France, me met à genoux devant le Seigneur? Ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur les forums. Ce n'est pas à force d'être les perroquets des autres. C'est à genoux. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Au secours, Seigneur. Habacuc se trouve sur la même longueur d'onde que le prophète Jérémie. Il souffre. Parce que pour lui, ce que Dieu veut importe. Il souffre. Parce qu'il va à contre-courant de sa société, y compris de son peuple. Il a cette capacité de dire, là, nous avons échoué. Là, nous avons manqué quelque chose. Chacun de nous a la capacité d'aller à contre-courant. Alors qu'aujourd'hui encore, dans beaucoup de nos pays, violence, injustice, corruption, haine, immoralité, sont l'assaisonnement de nos vies spirituelles, sociales et politiques, chacun de nous peut recevoir la force, comme Habacuc, d'aller à contre-courant. Avons-nous des yeux? Avons-nous l'autorité morale suffisante pour voir le monde tel qu'il est? Pour dénoncer la tyrannie du mal? Ou que ce soit? Y compris dans notre propre société et dans notre propre vie. Face à ce cri d'Habacuc, le Seigneur va répondre. Habacuc, chapitre 1, versets 5 à 11. Il va lui dire, voyez, regardez parmi les nations. Soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car une œuvre est en train de s'accomplir que vous ne croiriez pas si on la racontait. Verset 6. Je suscite les Chaldéens, c'est-à-dire ces néo-babyloniens, ce peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes pays pour prendre possession de demeures qui ne lui appartiennent pas. Il est terrible et redoutable. Il impose lui-même son droit et sa suprématie. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus mordants que les loups du soir. Ses chars se déploient, ses chars viennent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie, etc. Le Seigneur écoute nos prières, bien-aimés. Le Seigneur écoute la plainte de ses enfants. Et nous avons commencé notre culte en rappelant le psaume 34. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Et si le Seigneur entend nos cris, et si le Seigneur entend nos prières et même nos balbutiements, c'est déjà une grâce, c'est qu'il veut entrer en dialogue avec nous. Mais le Seigneur va parfois nous répondre de manière aussi inattendue et déroutante qu'il a répondu au prophète Habakkouk. La réponse du Seigneur annonce qu'il se servira comme d'un bâton pour corriger son peuple, d'une nation encore plus méchante, plus décadente, plus violente, plus injuste que Juda. Habakkouk, face à cette réponse, est déboussolé. Il est déboussolé. Et on va le voir dans sa seconde plainte, chapitre 1, versets 12 à 17, que je vous invite à relire. Troublé par ce qu'il vient d'entendre, comment un Dieu saint peut-il recourir à un instrument aussi mauvais que les Babyloniens pour corriger son peuple? Comment? Vous savez, dans les religions où on croit qu'il y a plusieurs dieux et un dieu pour toutes choses, on peut se dire, mais c'est la faute à tel dieu qui n'a pas, au dieu de la guerre, c'est la faute au dieu de la pluie, c'est la faute au dieu... Ouais, ça règle un peu cette question-là, d'une certaine façon, mais ça ne règle rien au fond, hein, on est d'accord. Mais pour le fidèle qui sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le Seigneur de l'univers, qui est souverain sur l'histoire de l'univers, qui plus est que ce Dieu est omniscient, il connaît toutes choses, que ce Dieu est omnipotent, il peut tout, toutes choses, il est tout puissant, que ce Dieu est omniprésent, il est partout présent, il remplit l'univers de sa présence. Ben oui, pour celui qui le croit, ne peut que se poser avec douleur la difficile question de savoir pourquoi permet-il ces situations mauvaises. Pourquoi permet-il ces situations mauvaises? Avant d'apporter quelques éléments de réponse, j'aimerais encore que nous puissions nous intéresser au cheminement que le Seigneur est en train de faire à Habakkouk. D'abord, en considérant la réponse du Seigneur, il semblerait qu'il dise à Habakkouk, mais Habakkouk, tu ne m'apprends rien. Je n'ai pas attendu la dernière chronique pour savoir l'état de Juda. Je n'ai pas attendu que tu viennes crier à mes oreilles pour savoir ce qui se passe. Et il lui dit, vois, regarde, je suis déjà en train de faire une œuvre. J'agis déjà. Et c'est vrai que quand on est dans la souffrance, quand on est dans l'épreuve, pendant tant de temps, pendant tant de durée, parfois notre regard se rétrécit. Et l'horizon de ce regard devient essentiellement notre souffrance et notre épreuve. Et nous ne voyons plus que ça. Et nous ne vivons plus qu'autour de ça. Et c'est difficile qu'il en soit autrement pour celui qui souffre, pour celles et ceux qui souffrent autour du souffrant. Et pourtant, Dieu, ici, vient dire à Habakkouk, « Je sais, j'ai vu et j'ai déjà commencé à agir. » Sauf que nous attendons que Dieu agisse d'une manière que nous voulons, selon les canons que nous avons imaginés, selon les causes secondes que nous souhaitons. Mais ici, Dieu va agir en utilisant des causes secondes qu'Habakkouk n'imaginait pas. Dieu va utiliser les néo-babyloniens parce qu'il est souverain. Et comme disait un réformateur, même Satan reste en quelque sorte le diable de Dieu. Non pas que Dieu ait quelque complicité avec le diable, non pas que Dieu a fait le diable, mais que même le diable n'échappe pas à la souveraineté totale du Seigneur sur toutes les créatures, bonnes ou méchantes. Habakkouk nous montre aussi un exemple de fermeté dans la foi. L'épreuve peut, soyons-en lucides et je sais que nous le sommes, l'épreuve peut attaquer les fondements de notre foi. L'épreuve peut à notre insu même, nous faire quitter le rocher stable de notre foi et de notre espérance. Mais Habacuc ici nous montre qu'il sait en quel Dieu il a cru. Et c'est parce qu'il sait et qu'il a reçu comme certains les enseignements qu'il a à cœur, parce qu'il a médité la nature de Dieu, qu'il est perplexe. Et dans la réponse d'Habacuc, entendez bien, il rappelle « Dieu, tu es éternellement bon. Dieu, tu es éternellement saint. Tu ne peux voir le mal. Tu ne peux penser le mal. Dieu, tu es immuable. Tu ne changes pas. Et donc, tu es fidèle. Et je sais que tu ne peux pas renoncer à ton alliance avec ton peuple. Même si je ne comprends pas pourquoi tu vas utiliser les Babyloniens. » Habacuc reste ferme dans sa foi, gardant les vérités essentielles qu'il a apprises au sujet de Dieu. Et puis, il nous donne aussi un exemple d'humilité. Si, dans son amour, comme un père, Dieu supporte notre effronterie et notre audace de protester contre lui, c'est bien parce qu'il est comme un père et qu'il nous aime. Et Dieu souffre tant de fois de notre effronterie, où nous osions lui dire comment il aurait dû faire, où nous osions lui dire comment nous connaissons mieux que lui ce qu'il aurait fallu faire. Dieu souffre bien de fois des choses comme telles. Mais ici, Habacuc va nous donner un exemple d'humilité. Il y a des lignes à ne pas franchir. Dieu lui a répondu, il est perplexe, il n'a pas encore toutes les réponses, mais il prend déjà une autre posture. Chapitre 2, verset 1, je vais rester à mon poste. Je vais rester à ma place. Et il dit, je vais rester à ma place, pas simplement passif, assis. Mais il dit, je vais rester à ma place comme une sentinelle pour guetter, pour guetter. Qu'espère une sentinelle ? Que fait une sentinelle ? Une sentinelle n'est pas passive, une sentinelle n'est pas endormie, avachie. Une sentinelle guette et une sentinelle sait que quelle que soit la durée de la nuit, le jour va se lever. Habacuc ne comprend pas, il est dans l'épaisseur de la confusion, il est dans l'épaisseur des ténèbres, tout lui semble confus, il est perplexe, mais il sait que son Dieu est fidèle. Et il sait que quelle que soit l'épaisseur des ténèbres dans lesquelles il est plongé, quelle que soit la nuit dans laquelle son peuple est plongé, il va être cette sentinelle. Il va guetter les heures et les veilles de la nuit. Jusqu'au jour où la lumière va se lever. Sentinelle, où en est la nuit ? Le jour arrive. Quel exemple pour nous aussi, chrétiens. Quelle est notre posture dans notre monde ? Sommes-nous à notre place de sentinelle ? Qu'attendons-nous ? Qu'espérons-nous ? Là où il y a les ténèbres, là où il y a le désespoir, là où il y a déshumanisation, là où il y a violence, sommes-nous encore un peuple de sentinelles? Et peut-être qu'Habacuc nous invite à réapprendre quelle est la juste place de l'Église au sein du monde, quelle est la juste place du chrétien au sein d'un monde enténébré, si ce n'est d'être sentinelle et d'annoncer prophétiquement que le jour vient et que le jour s'est levé en Jésus-Christ. Et que son soleil brillera encore. Il y a un temps pour plaider, il y a un temps pour contester, il y a un temps pour protester avec Dieu, mais il y a un temps aussi, comme l'a expérimenté le prophète Jérémie, pour attendre en silence le secours de l'Éternel. Dans Lamentations 3, il nous dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Le Seigneur fera une réponse à Habacuc pour la deuxième fois au chapitre 2, les versets 2 à 20 que nous n'avons pas le temps de lire. Le Seigneur répond à son prophète et cette fois-ci, il veut que sa réponse soit portée à la connaissance de son peuple. Il veut que sa réponse soit mise par écrit comme un témoignage perpétuel pour toutes les générations et c'est la raison pour laquelle nous avons le livre de Habacuc. Cette réponse renferme plusieurs enseignements pour nous aussi. Le verset 4 de ce chapitre 2, le Seigneur dit à son serviteur, après lui avoir dit que ce qu'il a annoncé comme jugement va se produire et ne manquera pas d'arriver, il ajoute, dans ces temps difficiles, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Un verset qui a été cité au moins à trois reprises par le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 1, verset 17 par l'apôtre Paul, en Galates toujours par l'apôtre Paul et par l'auteur de l'Épître aux Hébreux en Hébreux chapitre 10, verset 38, faisant écho à la pensée qui nous a été partagée ce matin, sans la foi, il n'est pas possible de lui être agréable. Les réformateurs et avant eux, les apôtres y ont vu une parole d'ailleurs qui était digne d'être rappelée dans la seconde alliance, dans la nouvelle alliance. Quand tout semble trouble, le juste est appelé à chercher les repères de sa foi, non pas dans le monde, non pas à gauche ou à droite, mais à rester dans cette stabilité de la confiance. Mon juste vivra par la foi, c'est-à-dire dans l'épreuve, le Seigneur nous invite à cultiver la fidélité. La fidélité à son alliance, de demeurer fidèle en son amour, de porter à crédit, au crédit de sa personne, qu'il est ce Dieu aimant, ce Dieu qui ne change pas, ce Dieu qui est fidèle, de croire contre et d'espérer contre toute espérance, tout en étant lucide sur la situation que nous parcourons. Mon juste vivra par la foi. Il est impossible de sortir de l'épreuve autrement en tant que chrétien si ce n'est par la foi. Il est impossible d'être agréable au Seigneur si ce n'est par la foi. Et le deuxième enseignement de la réponse de Dieu aussi concerne le méchant. Les versets 5 à 19 de ce deuxième chapitre nous présentent cinq grands malheurs que je ne vais pas développer. Mais le résumé, c'est malheur aux méchants, malheur aux meurtriers, malheur à ceux qui ont choisi de faire prospérer la violence, l'injustice sociale, malheur à ceux qui sont idolâtres. Et ces malheurs décrivent non seulement des carences de la maladie spirituelle qu'il y avait en Juda en ce temps-là, mais désignent également l'attitude des Chaldéens. Oui, Dieu s'est servi des Chaldéens, des Babyloniens, mais eux-mêmes, parce qu'ils ont pour Dieu leur force, parce qu'ils ont pour Dieu l'appât de gain, parce qu'ils ont pour Dieu leur domination, et parce qu'ils outrepassent les limites imposées même par Dieu, les Chaldéens eux-mêmes seront jugés sévèrement. Malheur aux méchants. Et c'est important qu'il y ait ces passages dans ce livre, parce que ça répond à la question profonde d'Habacuc. Non, Dieu ne considère pas le juste et le méchant de la même manière. Le juste, c'est celui qui reste fidèle au Seigneur, qui suit les préceptes de Dieu. Le méchant, c'est celui qui est sa propre loi. Il n'a ni Dieu ni loi. Et Dieu ne considère pas que le méchant va s'en sortir, va passer entre les gouttes. Non. Et un jour, il reviendra juger, vivants et morts. Et enfin, au verset 20, ça se termine par l'affirmation du règne de Dieu. Le Seigneur est dans son temple. et il dit « Silence, toute la terre ». Oui, le Seigneur règne. Notre Dieu règne encore. Et jamais son amour ne s'endort. J'aime les paroles de ce vieux cantique. Les vents se déchaînent. Nos cœurs sont en peine. Mais notre Dieu règne encore. Et heureux celles et ceux qui rentrent dans sa présence, comme nous avons chanté ce matin, une chose que je désire, c'est d'habiter dans ta maison. Le Seigneur règne. Il est dans son sanctuaire, dit le verset 20 du chapitre 2. Il gouverne souverainement le cours de nos histoires et de l'histoire du monde, de l'univers. À lui le premier, à lui le dernier mot. Et donc le chapitre 2 se termine par le fait que maintenant Dieu impose à son prophète le silence. Il y a un temps où il faut savoir faire silence devant le Dieu vivant. Il y a un temps où il faut savoir arrêter de contester avec Dieu. Même Job a compris qu'il y a un temps où il faut savoir dire, mais mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Alors, j'aimerais conclure. Jusqu'à quand? Combien parmi nous ont déjà prié avec ces cris jusqu'à quand? J'aimerais nous dire que jusqu'à quand n'est pas la fin de l'histoire. Et nous le verrons, ce n'était pas la fin de l'histoire d'Habacouc. Oui, le juste n'est pas épargné, comme le psaume 34 nous l'a dit à l'entame de notre culte, par les malheurs du monde et de son temps. Oui, le juste peut être dans la perplexité et dans l'incompréhension. La foi authentique n'exclut ni perplexité ni souffrance. En déplaise à ceux qui prônent ou qui courent après l'évangile de la prospérité. Nous annonçons un évangile de grâce dont celui qui en est l'objet a accepté lui-même de donner sa vie et a lui-même subi injustice, humiliation, violence et il allait jusqu'au bout. Le Seigneur accueille nos plaintes, bien-aimées. Parfois, nous avons tendance à les refouler, à considérer que nous serions des mauvais chrétiens parce que nous disons c'est beaucoup, ça fait trop, parce que nous disons je ne comprends pas. Habacuc, Job et d'autres nous autorisent et nous montrent que Dieu a quelque chose à nous dire et à faire avec nos plaintes. Et en Jésus, il nous appelle à nous approcher de lui pour être déchargés de tout fardeau. Venez à moi. Ou tout qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Le livre d'Habacuc nous apprend aussi que la prière de lamentation, la prière de plainte, peut-être que vous ne connaissez pas cette prière beaucoup, mais il y a des prières de lamentation. La prière de lamentation est aussi un acte de foi et d'espérance. Parce que la prière de lamentation, comme la veuve qui frappe à la porte de son ami toute la nuit, refuse de ne pas être reçue. Refuse que le mal, l'injustice est le dernier mot. La prière de lamentation fait de nous des sentinelles lucides face aux souffrances de nos vies et du monde et fait de nous des sentinelles humblement assis dans la présence de Dieu, certains qu'il agira encore.